la bande originale, soyez les bienvenus. Oui. Avec autour de la table Albert Algout, Jean-Louis
Bonjour.
Daniel Morin,
bonjour.
Frédéric Sugris, Michel Ornac est au clavier.
Bonjour.
Et notre invité est Monsieur Reda Kateb. Bonjour à tous, je suis Leïla Kadour-Boudadi et je suis enchantée de vous recevoir, Reda Kateb. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci, merci à vous, bonjour.
Alors cette semaine, vous l'avez un peu constaté, c'est une bande originale un peu spéciale puisque Nagui est parti souffler un peu, il m'a laissé les commandes aujourd'hui. Demain, ce sera ton tour, Tom Villa.
Oui.
Et après, c'est Daniel Morin qui prend la suite.
C'est pas possible.
Ouais, si, si.
Trois jours beaucoup moins cher pour France Inter.
Nagui, on t'embrasse, hein, t'as vu ?
Mais bien sûr.
Je crois que la DRH aussi.
On sait que tu nous écoutes. Moi, je serai à votre place, je ferai attention. Ne t'inquiète de rien, on s'occupe de tout. En gros, c'est ça l'idée. Alors, on va parler aujourd'hui des Derniers Parisiens, un film que vous venez nous présenter, Reda Kateb. Et malgré tout, j'ai bien peur, Tom Villa, que vous n'ayez pas vraiment compris pourquoi Reda était notre invité.
Mais si, parce que Leïla, vous aimez les acteurs.
Ouais.
Et Daniel Morin aussi aime les acteurs, puisque mercredi, il recevra Franck Leboeuf.
les grands acteurs.
Franck, qui a fait quand même la meilleure école de comédiens de France, l'Olympique de Marseille. revenons à vous, Reda Kateb. Vous êtes à l'affiche, voilà, comme l'a dit Leïla, des Derniers Parisiens. C'est un film sur les Parisiens, visiblement. Donc un film dans lequel il n'y aura pas Franck Leboeuf. Reda, vous avez été gitan, médecin ou encore terroriste. Maintenant, vous êtes tenancier de bar à Pigalle. Voilà, bref. On sent que c'est les rôles de mecs bien que vous aimez. Hein. C'est vrai que les Derniers Parisiens, c'est l'histoire de Nas, donc vous, Reda, fraîchement sorti de prison, qui est bien décidé à se refaire un nom dans son quartier à Pigalle. Et pour ça, il compte sur le bar de son frère, qui veut un peu transformer. Voilà, à la base, c'est un bar populaire, un peu mytho la journée, et un bar à fête le soir. Voilà, à Paris, on appelle ça un concept bobo. Dans certaines villes de province, on appelle ça le seul bar du village. Et, non, mais c'est un super film. Il faut juste prévenir nos auditeurs. Vaut mieux y aller avec un dico français-parisien, sinon t'es dans la merde. Quoi.
Ah, ouais.
Marseille, mettez des sous-titres, sinon ça revient à regarder un film biélorusse non traduit, ça va être une galère pour tout le monde. Hein. Une autre particularité du film, c'est que... Non, c'est vrai, dès qu'il n'y a plus de trois syllabes, je suis en galère. Une autre particularité du film... Moi, je n'ai pas de dentier. Une autre particularité du film, c'est que ça se passe complètement sur le boulevard de Clichy, boulevard parisien bien connu des touristes et des gens qui aiment tout ce qui se rapporte à...
Tourisme.
À l'univers du génital. Et bref, quand il y a un rideau devant, hein, c'est pas une cabine d'essayage. Le plus dur d'ailleurs, c'est pas de rentrer dans un sex shop, mais d'en sortir, comme le disait le maréchal Ghana juste avant l'émission.
Bah, tu en parles mieux que moi en tout cas.
La petite astuce, c'est de prendre de la vitesse dès l'intérieur de la boutique pour arriver sur le trottoir avec de la vitesse. Voilà, comme sur une bretelle autoroute. Voilà. Après, moi j'adore ce quartier, il est complètement dingue. Tout tient à une rue près, surtout avec les touristes, les mecs qui viennent voir le Moulin Rouge à 50 mètres près, ils finissent à jouer au bonto sur un carton humide. Entre deux sex shops et trois magasins de Tour Eiffel. Et selon où tu vas, tu peux vite te retrouver avec le portefeuille vide et le pantalon sur les chevilles. Tant que c'est pas l'inverse, ça va. C'est fait. En fait, Pigalle, c'est pas un quartier, c'est un questionnaire à choix multiples. D'ailleurs, le film s'ouvre sur un mec qui s'achète une crêpe au fameux crêpier qui est juste à la sortie du métro Pigalle. Ouais, quand j'ai vu ça, je me dis, tiens, à quel moment ce mec va mourir dans le film ? Je sais pas. Moi, j'y ai déjà mangé. On a dû me faire une grève des reins la semaine d'après. Non, j'exagère. En plus, un vrai crêpier, comme on en voit plein à Paris, un crêpier breton originaire d'une petite ville portuaire près de Bombay, qui est un peu à l'ouest de Quimper, je vous l'accorde. Bref, je sais pas si vous avez tout compris, Leïla, mais si vous aimez les bars, les crêpes et les quartiers mythiques de Paris, les Derniers Parisiens est fait pour vous.
Bon, c'est pas tout à fait ça. Merci, Tom Villa.
Merci, c'est un peu ça.
La bande originale. On va reprendre tout ça, Reda Kateb.
Ah, j'espère bien.
Ouais.
Oh non.
Ouais. Bon, alors déjà, les Derniers Parisiens, c'est en salle mercredi 22, dans toutes les bonnes salles. Et c'est donc, en effet, on va reprendre en partie ce qu'a dit Tom Villa. C'est le parcours de Nas que vous incarnez, qui vient tout juste de sortir de prison et qui tout d'un coup redécouvre le Pigalle qu'il a laissé pendant quelques mois et qui a une grosse ambition, c'est de s'y faire un nom. C'est ça à peu près l'idée.
Oui, oui, c'est quelqu'un qui a tout perdu, le peu qu'il avait, qui vient de passer deux ans en prison et qui, en fait, possède un café avec son frère. Seulement, il n'apparaît pas dans les papiers de la propriété du café. Et donc, c'est un personnage qui est illégitime dans cet endroit de ce bar et qui voudrait faire quelque chose. Voilà, c'est finalement à l'image de beaucoup de gens à qui on ne donne pas forcément une place et qu'on ne légitime pas forcément, et encore moins dans le Paris d'aujourd'hui, et qui ont un vrai désir, une ambition personnelle, mais aussi l'ambition de faire quelque chose pour les autres, que les les autres puissent, là en l'occurrence c'est organiser des fêtes, ouais. Faire que les gens s'amusent, voilà, fassent la fête quoi.
Initialement le titre c'était Mon nom à Pigalle, donc c'est vraiment, c'est très porteur de sens.
Oui c'est vrai, et le changement de titre l'est aussi puisque au-delà de cette trame-là, au-delà du personnage de Nas et de son frère Areski, le film parle aussi de tous ces gens qui n'ont pas leur place légitimée à Paris, quoi. Finalement, dans le film, on assiste à un quartier qui se vide de son peuple, qui a sa gouaille, qui a voilà, c'est une page qui se tourne d'un Paris qui se tourne. Quoi.
Alors justement, le Pigalle qui est donné à voir, c'est pas le Pigalle de Carte Postale, c'est pas le Pigalle d'Amélie Poulain. Là, le Pigalle qu'ont décidé de filmer Amé et Ekoué, il faut quand même leur rendre honneur parce que c'est un très beau film. Alors Amé et Ekoué, pour ceux...
La Rumeur.
Oui, La Rumeur, c'est deux des membres fondateurs du groupe hip-hop La Rumeur. La Rumeur, juste pour vous le remettre en tête, c'est ça.
Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs, au crépuscule d'une bavure. Je murmurerai la haine, enclavé dans les huppes en région parisienne.
Eh bien, Amé et Ekoué décide de filmer Pigalle, brut. Il y a limite un côté documentaire dans le film, Reda Kateb.
Oui, en tout cas, c'est un quartier qu'ils connaissent vraiment très très bien. La Rumeur, c'est vraiment est née dans ce quartier-là, s'est développée dans ce quartier-là. Ce film, c'est presque La Rumeur en image, c'est-à-dire que moi, il y a plein de morceaux, notamment Paris nous nourrit, ou enfin voilà pour les connaisseurs du groupe La Rumeur, qui m'ont donné énormément d'images en les écoutant et que j'ai retrouvées en jouant dans ce film. Ouais.
Alors c'est Pigalle la nuit, Pigalle le jour aussi, parce que votre personnage est un peu nostalgique du Pigalle interlope avec les soirées, les jolies filles, mais ce Pigalle-là n'existe plus vraiment.
Oui, c'est moi j'ai connu Pigalle quand j'avais 20 ans dans les soirées du Noctambule par exemple, donc c'était pas les soirées branchées jet set ou high parisien, c'était un homme qui s'appelait Pierre Carré qui chantait dans son costume rouge. Je sais pas si autour de la salle vous êtes déjà allé au Noctambule.
Ouais, mais c'est encore ouvert hein.
À partir de 2h du matin, je sais pas si Pierre Carré chante encore, j'aimerais bien en tout cas. Mais voilà, c'était un lieu moi qui me j'avais une espèce de nostalgie d'un Paris que j'avais jamais connu, un Paris de cinéma pour le coup, un Paris des Enfants du Paradis, de tout un tas de films qui m'avaient bercé, qui m'avaient nourri. Et j'allais chercher ça finalement dans ce quartier-là et dans cette faune-là. Aujourd'hui, c'est une autre faune et c'est un peu un point de friction entre Paris et sa banlieue en fait. C'est-à-dire que il y a à la fois le monde, tous les touristes, il y a à la fois quelque chose de très parisien puisque c'est devenu un quartier très branché, et il y a aussi tous les banlieusards qui viennent en voiture s'acheter une crêpe le soir et faire quelques tours et puis voilà.
Les gens du quartier qu'on voit pas aussi, l'épicier, les gens dans le bus, le soir, dans le Noctambus, on donne à voir une population qu'on voit jamais au cinéma.
C'est vrai. Amé et Ekoué, de ce point de vue-là, on documentait d'une certaine manière ce quartier d'aujourd'hui, quoi. Ouais.
Et sinon, il y a aussi une histoire. Dans l'histoire, c'est le rapport entre ces deux frères. Votre frère Areski, interprété par l'exceptionnel Slimane Dazy.
C'est vrai.
Vous êtes un peu le jour et la nuit, tous les deux. Hein. C'est encore, tarif jour, tarif nuit, comme dans un taxi à Pigalle. Vous appartenez à deux générations bien distinctes et vous avez vraisemblablement les mêmes aspirations. Réussir, vous trouver une place au soleil, on va dire, mais les chemins sont un peu différents.
Oui, c'est un vrai rapport fraternel. D'ailleurs, merci pour ce que vous avez dit de Slimane, parce que je trouve que voilà, c'est un acteur exceptionnel, une personne que j'aime du fond du cœur. Et voilà, je suis vraiment content que vous lui rendiez hommage comme ça. Et effectivement, ces deux frères-là, en fait, ils ont quand même une vision différente de ce qu'ils ont envie de faire de ce bar. Quoi. L'enjeu, c'est le point d'enjeu, c'est ce café. Et Areski, joué par Slimane Dazy, lui, ce qu'il voudrait, c'est que ça continue pépère, quoi, servir des verres aux clients qui sont là. Il pense d'ailleurs peut-être tout plaquer pour partir vivre à la campagne, dans quelque chose de tranquille. Et Nas, il a les crocs. Pour parler crûment, quoi.
Il sort de prison, il a perdu sa copine, il veut se refaire.
Voilà, et puis c'est aussi une génération d'après qui finalement n'a pas envie d'attendre qu'on lui donne quelque chose, mais est prêt à casser la porte pour prendre ce qu'il y a à l'intérieur, parce que il estime que ça lui appartient aussi, quoi.
Oui, vous le dites, hein, on a été posé comme ça, on a grandi sur le sable, on n'avait pas de grand frère, et on n'a plus envie de courber les chines, on considère qu'on peut faire quelque chose. Il y a un vrai message là-dedans.
C'est vrai. Il y a un message, enfin, le message, ce que j'aime aussi dans ce film, c'est que le message n'est pas posé de manière un peu frontale, et simplifiée. C'est-à-dire que chaque personnage a ses raisons, et finalement, le message qui est renvoyé par le grand frère, il est tout aussi légitime, quoi. Il explique que sa génération a été complètement décimée par la drogue, que eux aussi ont fait comme ils peuvent. Et moi, j'aime cette chose du cinéma qui montre des gens qui font comme ils peuvent, en fait. C'est ce que j'aime beaucoup dans un certain cinéma italien, dans un cinéma français même d'une certaine époque. Et cette chose-là me manque parfois sur les écrans français aujourd'hui. Je suis très content que ce soit des rappeurs qui l'amènent aujourd'hui.
Et puis, on n'est pas dans les clichés. Par exemple, sur la violence, elle n'est pas fantasmée comme elle est dans beaucoup de films.
C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas un flingue. Il y a peut-être deux scènes de montée de violence, mais il n'y a aucun goût pour le sang. Il n'y a pas de côté sexy de la violence.
Pas spectaculaire au mauvais sens du terme.
Oui, au sens peut-être cynique, en fait, des fois, de comment représenter ces gens-là aussi. C'est-à-dire qu'on les représente sur le mode du folklore, très souvent, et pour s'en servir. Et finalement, ces images-là, parfois, font mal, quoi, aux gens qu'on représente. Alors que là, il y a une grande bienveillance, en fait. C'est vraiment, c'est pas d'un point de vue moral, quoi, mais c'est que cette caméra, elle veut du bien aux gens qu'elle filme.
Et on cache pas l'argent, parce qu'on voit beaucoup de billets circuler de main en main. Là non plus, on cache pas une réalité sans pour autant la rendre cliché.
Non, c'est vrai. Et puis cet argent, pour le coup, qui circule dans le film, c'est du petit argent. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des liasses d'argent en liquide...
C'est rien à côté de ce qui se trame ailleurs.
Oui, les vraies transactions qui pèsent, elles se font autrement que par quelques billets en papier. Donc il y a quelque chose de en même temps pathétique dans cet argent qui circule tout le temps et avec lequel on peut acheter un vélo volé ou alors défaire la vie de quelqu'un, quoi.
Moi, ce qui me sidère, c'est la connaissance du trafic de l'argent sale et des adresses les plus glauques de Pigalle par Leïla Kadour-Mogadi.
Mais elle a été conseillère, je crois.
Je ne sais pas. Je crois qu'il y a une grande préparation pour cette émission.
Oui, bah oui, j'ai une immersion. Oui. Moi, je pense que c'est important de vivre les choses.
Ça fait deux ans qu'elle travaille.
Deux ans d'immersion.
Je peux vous dire qu'elle a plein de petits billets dans la poche.
Élise Lucet de Pigalle.
Et justement, votre personnage, par rapport à l'argent, il a un côté grand seigneur. Et c'est aussi le cas de son frère. J'y ai vu, moi, deux gars à l'ancienne. Vous êtes très généreux, vous partagez ce que vous finissez par récupérer à chaque fois. De même, Kareski est d'une droiture exemplaire. Il est dans cette envie de rigueur absolue. Et il y a quelque chose de... Vous êtes très opposés et en même temps, on sent le même moule, en fait.
Oui, peut-être que ça c'est dans les backstories des personnages. Peut-être qu'ils ont eu finalement, tout en ayant grandi sur du sable, quelques valeurs qui leur ont été données et une certaine noblesse au milieu de cette pauvreté. Ouais.
Et un mot rapidement quand même des deux réalisateurs, Amé et Ekoué, dont je salue encore une fois le travail. C'est pas la première fois que vous tournez avec eux. Vous étiez sur leur premier court-métrage. Vous avez fait un téléfilm avec eux. C'était sur Canal, De l'encre. L'histoire était absolument géniale sur une rappeuse qui était obligée de devenir un peu près de plume pour du rap commercial. Alors là, c'est quoi?
Pour du slam.
Qui
était très en vogue à l'époque.
À l'époque, alors qu'aujourd'hui. Là, c'était évident que s'il faisait un premier long métrage, c'était avec vous.
Ah oui, complètement. C'est des amis. Avec Amé, on s'est rencontrés avant même que je joue dans un film. Voilà, on passe des amis de longue haleine avec lesquels on fait un bout de chemin depuis un moment et avec lesquels on se reconnaît sur plein de choses. Et après avoir fait ce téléfilm de l'encre, le court-métrage aussi d'Amé, c'était une évidence que leur premier long-métrage, on allait le faire ensemble. D'ailleurs, c'est la toute première fois où la dernière version du scénario, je la lis une semaine avant le début du tournage.
Vous les laisserez un jour travailler sans vous? Vous avez complètement maqué le...
Ouais, on y réfléchit. Mais je crois que leur prochain projet, puisque apparemment ils partent sur justement une trilogie qui se passerait dans ce quartier-là, ce sera essentiellement avec des personnages féminins. Et ça m'intéresse vraiment de voir comment est-ce qu'ils vont traiter ça.
Comment ils vont vous travestir, vous voulez dire, voilà, pour jouer dans le film?
Vous garderez la moustache ou pas?
On y réfléchit.
Albert, vos oreilles ont sifflé quand vous avez appris que nous recevions Reda Kateb.
Mais oui, mes oreilles ont sifflé comme les vôtres d'habitude, Léa, oui, puisque je suis à la place où ça siffle.
Donc, la place de l'otite.
Voilà, exactement. Et j'ai entendu une voix dans mes oreilles que l'on a trop peu entendue au cinéma.
Tu finiras bien par parler, Slimane.
Quel jour? Les coups d'État.
Dans quelle ville? À quelle heure?
Quel régiment? Le mot de passe, Slimane!
Assassine-moi si tu veux, Fares.
Voilà, c'est un extrait de Rabbi Jacob, avec votre père, Malek Kateb. Votre père, un comédien, vous pouvez nous dire quelques mots sur votre père?
Oui.
C'est gênant, je sais, c'est comme ça de but en blanc.
Mais on le fait quand même.
Bah, je vais vous aider. Vous avez dit un jour que votre père a été un émigré du théâtre.
Oui, alors effectivement, c'est mon père a commencé à faire du théâtre, à jouer pendant la guerre d'Algérie. Et il est venu en France pour faire du théâtre quelques années après l'indépendance, après avoir participé à la fondation du Théâtre National Algérien.
Et une vie très importante théâtrale en Algérie à cette époque, avec des personnages extraordinaires, dont un de vos grands-oncles, je crois.
Oui, 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 c'était une période, si vous voulez, c'était la naissance d'un pays et toute une culture à construire avec des grands espoirs et des grands désenchantements qui ont suivi, puisque voilà, après, l'État algérien a tout verrouillé et c'est devenu beaucoup plus compliqué pour la culture en Algérie. C'est pour ça que mon père a immigré pour pouvoir mener une vie d'artiste libre ici en France. Et il s'est confronté à la fois à cette liberté, à la fois au racisme de ce pays dans ces années-là, notamment par rapport au cinéma.
Et ça vous fait quoi de le voir dans un film comme ça, tout d'un coup? Rabbi Jacob, c'est pas n'importe lequel.
Dans Rabbi Jacob, c'était ma grande fierté.
À l'école?
À l'école, les lendemains de diffusion de Rabbi Jacob à la télé, voilà, tout le monde me demandait comment est-ce que mon père avait sauté dans la cuve de chewing-gum. Donc je racontais ça à mes camarades.
Vous n'avez pas tenté de monnayer des trucs? Plusieurs invités nous ont raconté comment ils ont essayé de tirer les avantages de la présence de leur père ou de leur mère dans des films qui ont bien marché, non vous?
Contraire de Nas dans le film, non, j'avais pas sens du business.
Mais pas que le fric dans la vie.
Non, mais je sais pas, comme ça, aussi. Sur un malentendu, ça peut
mais
marcher.
J'aurais pu, hein, j'aurais dû, peut-être ça m'aurait donné quelques carambars. Ouais.
À présent, un autre extrait sonore. Moi, je dis pas un son, je dis un extrait sonore. Ah, oui. Parce qu'un son, ça peut être un coup de fusil, ça peut être un pneu qui éclate. Donc, c'est un.
T'es en train de faire remarquer que tu parles mieux que moi, que t'es plus précis.
Voilà, complètement.
Très bien, vas-y,
moi,
continue.
Moi, je prendrais mal.
Non, bon, ça va.
Il faut expliquer les choses.
Oui, donc, un son ou un autre extrait sonore.
Je profiterai juste de cette occasion pour un petit big up tout spécial à mon pote Loïc, qui m'avait aidé à remplir le frigo à l'époque quand il était bien vide. J'oublierai jamais. Voilà, je serre la chance d'être devant vous ce soir. Merci de confirmer cette chance. Merci.
Alors, ça, Reda Kateb, ce sont des propos que vous avez tenus quand vous avez reçu le César du meilleur second rôle pour Hippocrate, c'était en 2015. Et ça rejoint un peu les propos que vous teniez tout à l'heure sur vos amis de la rumeur. Vous n'oubliez pas vos amis.
Non, bah, j'espère que vous non plus.
Ah, bah, Alors ça
c'est pour ça que ça m'étonne.
Voilà, on va pas en parler tout de suite.
J'en parle d'autant plus que c'est une chose que nous ignorons ici.
J'en suis pas sûr. Mais non, c'est vrai que voilà, en tout cas, je m'étais toujours juré que si un jour je recevais ce type de distinction, j'en profiterais pour le partager avec mes amis. Ça avait beaucoup plus de valeur une fois partagé, c'est vrai.
C'est un moment très émouvant en fait. Est-ce que vous vous rendez compte, Reda Kateb, que vous avez vraiment un capital sympathie assez incroyable? Juste avant de faire cette émission, toute la bande m'a dit « Ah, on adore Reda Kateb ».
Merci, merci. Non, mais
d'ailleurs, on a enregistré le son, on va vous le passer.
L'extrait sonore.
Parce que ça claque comme un coup de canon.
Pour ne pas quitter l'Algérie, ça me rappelle, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, il s'appelle Blonblon, qui était un chanteur albinos d'Oran. Il y a un de ses tubes, c'est N'oublie pas tes amis. Et ça m'y fait penser, il faudrait qu'on le repasse un jour.
Ah, j'aimerais bien écouter cette chanson.
En tout cas, merci Albert Algout pour ce bouillon de culture.
Pour ses sons.
Plutôt cet édito avec ses extraits sonores. Voilà. Les Derniers Parisiens, je le rappelle, c'est le premier long métrage de Amé et Ekoué qui sera en salle mercredi 22. Donc, au casting, vous, Reda Kateb, bien entendu, l'excellent Slimane Dazi. Il y a aussi Mélanie Laurent, Willy Barge, on va en reparler, mais tout de suite, c'est l'heure de l'humeur de Frédéric Sigrist.
T'as un contrat.
Mais oui, j'ai un contrat.
Il vient de tomber sur son contrat.
Il est
regarde,
il est
juste là en boule.
Il est vide, hein, tu regardes qu'il est vide. Donc, vous, Reda, vous êtes ici pour donc, le film Le Dernier Parisien. Et,
ça, oui.
Et moi, ça va faire.
C'est bien.
Merci beaucoup.
J'aime bien synthétiser, c'est important.
Oui.
Donc moi, ça va faire 17 ans que j'habite en région parisienne. Mais même après tout ce temps, ça fait toujours pas de moi un Parisien. Non, d'ailleurs, quand on me demande d'où je viens, je réponds spontanément que je suis Lorrain, alors que j'ai presque passé autant de temps ici que je n'en ai passé en Lorraine. Et j'ai jamais réussi à vivre au cœur de Paris. Hein. Moi, c'est toujours dans le 12e arrondissement, près des portes de Paris, portes de Vincennes, portes de Montreuil. Pour moi, la ville de Paris, c'est comme les discothèques de mon adolescence. T'as beau te mettre sur ton 31, faire des efforts et tout, t'as 9 chances sur 10 de tomber sur un videur qui va te dire « pas de basket ici ». Donc du coup, tu restes devant la porte. Donc moi, c'était porte de Vincennes. Hein, la première fois que j'ai visité un studio parisien, quand le propriétaire m'a dit le montant du loyer, je lui ai demandé « mais je veux que le studio, pas l'étage ». Et les propriétaires d'appartements parisiens sont des gens très spéciaux. Ils te font visiter des chambres de bonne avec des tuyaux en plomb, des fenêtres brisées, les toilettes sur le palier, et t'as l'impression qu'ils te font visiter le Louvre. C'est tout juste si tu files pas des audio guides pour faire la visite. Et puis les garanties, c'est un truc de malade. Mon ancien proprio, il m'a demandé tellement de choses, j'ai cru qu'il voulait écrire une biographie. Le loyer, quand t'emménages à Paris, ça devient très vite ton obsession. T'sais, quand t'es invité chez des gens qui ont un bel appart ou une belle maison, tu leur dis pas « Oh, comme c'est bien décoré !» Mais tout de suite, sans ta discrétion, vous payez combien? Tu ne penses plus qu'à ça. Plus qu'à ça. Comme ma femme et moi, on est des probos, hein, c'est-à-dire des prolétaires bohèmes, c'est comme des bobos mais avec des fins de mois difficiles, et ben, on a toujours voulu vivre dans des quartiers dits « vivants ». Des quartiers vivants, on dit comme ça, voilà. En langage probo, ça veut dire des quartiers avec un fort taux de concentration de noirs et d'arabes. Voilà, c'est une manière pour nous de prouver au monde notre extrême ouverture aux autres. Le problème, c'est que l'arrivée des bobos dans ces quartiers, ça fait monter le prix de l'immobilier. Du coup, bah, le noir ou l'arabe, bah, il se casse au-delà du périph, et le bobo, au final, il se retrouve dans un quartier rempli de hipsters. Hein, je rappelle ce qu'est un hipster, des mecs qui se rasent le cul, mais pas la barbe. Et vu...
C'est
vu
Daniel
que...
Morin.
Oui, c'est ça. Et vu que le bobo, il a vraiment pas envie de passer pour un type fermé sur lui-même, qui vit toujours avec les mêmes personnes autour de lui, il décide de poursuivre le noir ou l'arabe au-delà du périph, ce qui fait monter les prix de l'immobilier en banlieue aussi, et ainsi de suite. À cette vitesse-là, d'ici 2027, on devrait trouver des bobos parisiens du côté de Clermont-Ferrand. Ah. Les classes populaires, elles vivent plus à Paris quand on y réfléchit. Elles y travaillent. Paris, c'est devenu une énorme usine où des millions d'ouvriers pointent chaque matin. Alors de temps en temps, pendant la pause déjeuner, on croise un des cadres de la boîte qui s'éclate sur son Vélib, hein, quand il fait beau, et dans son Uber quand il fait froid. Hein, n'est-ce pas, Daniel? Alors nous, on a décidé de déménager quand ma famille s'est agrandie. Parce que je voulais pas que mes enfants dorment dans un frigo. Hein, parce que si tu les as pas habitués depuis tout petit comme Véronique Courgeot, ils ont tendance à mal le vivre. Parce que le prix des appartements à Paris quand tu veux acheter, c'est un truc de fou. Quand tu t'envoies en l'air, t'es obligé de téléphoner à ton agence immobilière pour savoir si tu jouis. Hein. Oui, est-ce que les taux sont assez bas pour qu'on puisse se reproduire? Non, ok. Donc on est parti à 55 km de Paris sur la ligne du RER C. Et quand tu passes ton temps dans les RER d'Île-de-France, alors outre une haine sans nom qui se développe envers la SNCF, hein, tu deviens fou avec ça aussi, et ben tu remarques un phénomène très étrange. Plus tu prends le RER tôt ou tard, et plus les passagers sont noirs de peau. C'est un truc de fou. Et plus le soleil se lève les matins, et plus les passagers dans le RER deviennent blancs. Et quand le soleil s'est couché, ils sont redevenus noirs. Alors, je sais peut-être pas qui sera le dernier des Parisiens, mais une chose est sûre, je sais qui va y bosser en premier.
Merci Frédéric Sigrist. La bande originale. Sur France Inter. Vous êtes bien dans la bande originale ce matin, c'est moi, Leïla Kader Boudadi, qui tient les commandes pendant que Nagui peaufine son bronzage. On lui fait un bisou? Non.
Bien sûr,
ah oui,
on est déjà obligé de l'embrasser chaque matin.
Il est sur la piste bleue actuellement.
Et ce matin, nous recevons Reda Kateb.
Il est parti, c'est fini. Hein.
Reda Kateb pour un film qui sortira mercredi 22, Les Derniers Parisiens. On va en parler jusqu'à midi et demi, mais avant cela, on va revenir sur quelques dates de votre vie, Reda Kateb, qui ont retenu notre attention. Et en musique, bien sûr, c'est le principe de cette émission. On commence en 77, l'année de votre naissance, et la musique qui vous est venue en tête quand on parle de cette époque, c'est...
Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux.
Booba.
On adore aussi.
Ça met une claque là.
On attend la suite.
c'est sûr qu'ils n'allaient pas vous louper. La cage aux oiseaux, Pierre Perret, Reda Kateb. C'est à la maison qu'on écoutait ça, forcément.
Oui, 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 j'ai été bercé par Pierre Perret dans mon enfance et nourri aussi à Pierre Perret, puisqu'il avait écrit un livre de cuisine. Donc voilà, j'écoutais, je mangeais des.
Exactement, ouais, voilà. La tortore.
Ça s'appelait l'andouille de Vire.
En effet. Donc, vous êtes né en 77 à Ivry-sur-Seine. Tout à l'heure, Albert a évoqué dans son édito votre père qui était comédien. On n'a pas parlé de votre mère.
Ma mère était infirmière. Enfin, elle était d'abord aide-soignante et puis ensuite elle s'est formée au métier d'infirmière lorsque j'étais petit et elle a exercé ce métier-là ensuite.
Ça vous a aidé pour Hippocrate ?
Beaucoup, ouais. Beaucoup, parce que j'étais du coup à la garderie de l'hôpital, j'allais voir ma mère à l'hôpital. Enfin, du coup, le lieu m'était déjà familier du côté soignant.
Ouais. Vous marchiez déjà en crocs à l'époque ou en sabots ?
Bien sûr, ouais. Les sabots depuis tout le temps.
Donc on a évoqué votre père qui est venu d'Algérie pour travailler ici en France, notamment avec Ariane Nouchkine.
Oui, au théâtre avec beaucoup de. Oui, il a commencé avec Ariane Nouchkine et puis Bernard Sobel, Georges Lavelli. Enfin voilà, des grands metteurs
des
en
grands
scène
metteurs
du.
En scène, oui.
Du théâtre dit subventionné, celui dans lequel il y avait quand même beaucoup de liberté pour les acteurs et une vraie exigence quoi de travail.
Et il avait une exigence aussi pour vous, c'est de se dire voilà, toi t'es né en France, tu vas aller beaucoup plus loin.
Je sais pas si c'était dans ces termes-là, ouais. Mais en tout cas, c'était peut-être que j'avais pas, si vous voulez, enfin, j'ai pas vécu l'exil, quoi, tout ouais. Simplement. Donc, ouais. C'était plus simple d'avoir ces deux pieds enracinés là où on est, lorsqu'on n'a pas quitté l'endroit d'où on vient, quoi, d'où on est né.
Et au point de pas apprendre votre langue maternelle, la langue maternelle de vos parents, en tout cas.
Voilà, ça, c'était un peu l'excès. Ouais. C'est le cas de beaucoup de beaucoup d'immigrés, ouais. En fait, qui n'ont pas voulu que leurs enfants subissent ce qu'ils ont pu subir en arrivant. Et puis après, il peut y avoir un manque qu'on comble à notre manière.
Vous êtes en train d'apprendre, vous essayez d'apprendre l'arabe ou?
Alors, pas là en ce moment, ouais. mais j'ai eu l'occasion de travailler la langue pour notamment pour un film. Mm-hmm. Et puis voilà, je suis beaucoup nourri par ces musiques aussi, par des musiques du Maghreb et d'Afrique. Ouais.
Quelques années plus tard, vous avez 8 ans, on est en 85, et là, vous écoutiez, alors ça n'a rien à voir avec la musique orientale, on y va.
Ah, les formants.
C'est le moment humiliation.
Non, c'est le moment Front National.
Pourquoi le moment Front National?
Mais parce qu'ils ont chanté, je crois, dans des.
Ah oui. Oui. Ah, je ne savais pas. Moi aussi, j'avais j'avais ce disque à la maison.
Et alors?
Dans des représentations.
Ils sont chez eux.
Le Front National. On aime la belle musique.
Vous m'apprenez quelque chose de vraiment. Sophie,
on va mettre Pierre Perret.
Danser, mettez basket.
Les idoles d'enfance qui retombent.
Ah, je suis désolé.
Les formants hyper lookés.
Ben oui, alors moi j'habitais du coup à Ivry-sur-Seine, qui était qui est d'ailleurs une municipalité communiste, mm-hmm. Et je les avais vus en concert à la fête de l'enfance. C'était un souvenir extraordinaire. Et voilà, j'ai fait des chorégraphies avec mes copains à l'école sur cette chanson que j'adorais, quoi, qui était vraiment voilà.
Ils salissent tout ici.
C'est le reflet de toute une époque.
Je suis désolé.
Non, ça me fait vraiment mal là ce matin.
Ouais, là,
mais c'est l'actualité qui nous fait mourir
la journée.
Tom Villard, on a dit qu'on était sympa avec les invités, surtout quand Nagui est pas là.
Aïe. 85. Je suis sûr qu'il y a un ou deux votants du Front National qui écoutent votre émission aussi.
Heureusement,
ça peut arriver. J'espère.
J'ai entendu dire de plus en plus.
Il y en a qui arrêtent d'écouter Radio Courtoisie, je le déplore, pour nous écouter.
Ça, c'est l'effet maréchal, Ganache.
Venez.
On est en 85, vous avez 8 ans, Reda Kateb, et c'est vos premières fois sur scène, déjà.
C'est vrai, c'était la première fois, un soir sur deux, où j'avais une réplique à dire sur scène, qui était « Mon ballon, monsieur, rendez-moi mon ballon voilà, ». C'est un grand souvenir.
Un jour sur deux, parce qu'on ne peut pas faire travailler les enfants tous les soirs, c'est ça?
Exactement, oui, en France, il y a quelques lois sur le travail des enfants, où j'allais aussi à l'école.
Ça va changer en 2017.
Et c'était une pièce où votre père était sur scène aussi?
Pas du tout, c'était un ami à lui qui montait cette pièce, qui s'appelait Ressac, qui était à l'époque dans un théâtre, mi-squat, je crois, vers la gare d'Austerlitz, dans des bâtiments qui n'existent plus aujourd'hui. Et voilà, pour moi, c'était finalement une révélation de pouvoir entrer dans ce terrain-là, un terrain de magie, un terrain dans lequel je vois des adultes se maquiller et jouer, quoi.
Et la scène, justement, aller au théâtre, jouer au théâtre, c'est quelque chose qui vous tente ?
Oui, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup trouver un projet pour retourner au théâtre. Et voilà, j'attends de que ce soit vraiment un projet sur lequel j'ai aucun doute, parce que au théâtre, c'est en fait, on doit bloquer des dates longtemps en avance, et pour le faire, il faudrait vraiment que je sois complètement convaincu, ce qui a pas encore été le cas, mais j'espère que ça va venir.
En tout cas, si vous cherchez un endroit chelou avec des gens qui se maquillent, j'ai deux adresses.
Je compte sur vous.
Vous iriez plutôt vers du répertoire classique, vers de la création?
Je sais pas vraiment, en fait, j'ai besoin, mais comme au cinéma, en fait, j'ai besoin qu'on m'emmène dans quelque chose où je sais que je vais découvrir quelque chose d'inconnu et de stimulant, quoi. Et du coup, c'est vrai que du classique revisité, ça arrive souvent. Je serais quand même plus tenté par une création d'aujourd'hui, quoi.
Il y a les Forbans qui pensent une comédie musicale, ça s'appelle Les Demoiselles de Francfort.
Je signe direct pendant deux ans.
Et Vichy aussi.
Bloc 6 mois.
Ouais. Faites en sorte que Daniel Morin ne devienne jamais votre agent. Dans les années 2008-2009, Reda Kateb, on vous retrouve à la télé dans Engrenage et au cinéma dans Un Prophète, et vous écoutiez. Wanted man in California,
wanted man in Buffalo. Toujours Pierre Perret. La passion.
Vous ne pouvez pas le vanner sur chaque choix musical.
Ah, je crois qu'il peut, vraiment. Je crois que
le mot bienveillance est absent du dictionnaire de Daniel Morin, de toute façon. C'est Johnny Cash,
Wanted Man. Qui fait partie du Ku Klux
Klan. Ça va.
Wanted Man de Johnny Cash. Et en 2008, vous êtes sur nos écrans à la maison, dans la série Engrenage sur Canal. C'est un premier rôle un peu exposé, on va dire comme ça. Vous trouvez ça un peu incroyable d'être payé pour jouer?
Être payé pour jouer, ça m'était arrivé quand même quelques fois avant, mais ce qui était incroyable, c'était que c'était la première fois que j'avais un vrai rôle à défendre aussi près d'une caméra, en fait. J'ai passé quelques années au maximum 60 mètres de la caméra, ou alors quand je m'en rapprochais, c'était pour une demi-seconde. De temps en temps, je faisais de la figuration pour gagner ma vie, et tout d'un coup, voilà, j'avais la possibilité de défendre un rôle, en plus un méchant. Moi, j'ai toujours adoré les méchants au cinéma. C'est quelque chose qui m'a toujours. C'est toujours les acteurs qui jouaient les méchants. Si je pense à Jack Nicholson, enfin, et tant d'autres, ça m'a toujours fasciné. Donc j'avais une grosse carte à jouer, en fait, et j'avais tellement peur que j'ai utilisé cette peur pour la violence du rôle, quoi.
Parce qu'il fallait éclater un pare-brise. Il y avait un truc un peu violent.
Oui, c'était la première. La première.
Sacré cascade,
pauvre pare-brise.
Un impact de la taille de 2 euros.
Mais c'est vrai que je me souviendrai toujours de ce premier jour de tournage où il faut rappeler que j'avais pas le permis de conduire. Et où,
et vous l'aviez dit au moins?
Oui, je l'avais dit. Après. Et on m'a mis au après avoir éclaté la personne qui était devant la voiture. Non, en fait, on m'a mis au volant d'une voiture assez puissante, et j'avais, je crois, 20 centimètres pour m'arrêter avec toute l'équipe devant moi. Et je me souviendrai toujours, parce que c'était vraiment comme si j'arrivais comme ça tout d'un coup dans la série. Et ce jour-là, j'avais effectivement à défoncer un pare-brise, et j'étais ravi d'être payé pour le faire.
Et c'est dans Engrenage, justement, que Jacques Audiard vous a vu, vous a remarqué, et c'est comme ça qu'il vous a appelé pour jouer dans Un Prophète, où vous incarnez un dealer, un gitan.
Absolument.
Ouais,
c'est
ça devait être un moment fou, tout d'un coup, Jacques Audiard au téléphone, ça se passe comment?
Alors, je ne l'ai pas eu au téléphone tout de suite, en fait. Moi, je travaillais sur une pièce de théâtre à Valence, de Peter Handke. Et puis on m'a dit que j'avais un casting à passer. Donc voilà, je suis allé passer mon essai, j'ai pris le train, je suis venu. Pas de nouvelles pendant quelques semaines. Et puis, on m'a demandé de revenir passer un essai. Et le lendemain de cet essai-là, le directeur de casting m'a dit « C'est bon, tu es engagé. Jacques sera ravi de te rencontrer demain. » Et après avoir passé des séries d'essais qui des fois duraient pendant des mois, j'ai adoré la simplicité, en fait, la simplicité de dire, déjà sans se rencontrer, de dire c'est lui que je veux, et de pas tourner autour du pot. Et puis ensuite la première rencontre avec Jacques Audiard, et un chemin qui continue aujourd'hui, quoi, même si on travaille plus ensemble, c'est quelqu'un qui est encore vraiment avec moi aujourd'hui.
Et travailler avec lui, tourner avec lui, c'est se dire quoi, qu'on s'en remet totalement à lui, c'est se laisser porter, et quel regard il porte sur ces comédiens, en tout cas sur vous, pendant ce tournage?
C'est quelqu'un qui, en fait, arrive à avoir une manière d'approcher chaque comédien différemment. C'est presque comme si il avait un peu la clé pour déverrouiller des choses. Et c'est mystérieux à lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il a pas de recette, mais c'est quelqu'un qui est très curieux, qui regarde les autres. On le voit dans ses films, sa manière de regarder les autres. Et en tant qu'acteur, on a toujours un peu l'impression d'être sublimé, en fait, par ce regard. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand je l'ai rencontré, en fait, il s'est pas mis au-dessus. D'ailleurs, je suis arrivé, ils étaient en train de finir de construire le décor de la prison. C'était très impressionnant. Donc, je lui ai dit, et il m'a dit, mais me dis pas ça, j'ai tellement peur. Enfin, il me parlait de ses peurs à lui, et d'un coup, on était un peu sur le même plan, quoi.
On fait un petit bond dans le temps. En 2013, Reda est là, malgré vos 8 films qui sont à l'affiche cette année-là. Vous trouvez le temps d'écouter. Un mot sur la musique, les garçons, là?
La Rousseau. Je suis imbattable.
T'es vraiment très fort.
C'est vrai.
Au blind test. C'est Sabou Yerkoï.
Qui a fait partie d'Al-Qaïda. Et...
Ah, mais non. touche pas. Ali Farka Touré et Toumani Diabaté.
Vous connaissez pas, c'est vrai, vous avez jamais écouté.
Moi, si, Ali Farka Touré, bien sûr.
Moi, le maréchal m'interdit.
Mais moi, j'aime beaucoup, moi.
On écoute un peu. Alors justement, dans cette année 2013 très chargée, 8 films, Reda. Et là, on se dit, c'est dangereux, tout tombe en même temps. Non, mais on a peur d'être trop vu, parce qu'il y a quand même du lourd hein, dans ces 8 films.
Oui, non, moi, j'avais pas de peur de ce point de vue-là. C'est vrai que c'était un gros rythme, du coup, c'était bien de se détendre en écoutant cette musique-là.
Il y a quand même Zéro Dark Sorti de Catherine Bigelow. Là, tout d'un coup, on va aux États-Unis.
Oui, alors je suis allé aux États-Unis pour présenter le film. J'ai tourné en Jordanie. En tout cas, c'est tout d'un coup plein de propositions super intéressantes qui sont arrivées au même moment. Donc, si c'était à refaire, je le referais demain. C'est un métier bizarre, en fait, où par moment, il n'y a rien. Et puis, où tout d'un coup, il y a plein de choses super intéressantes. Donc là, il faut y aller, quoi.
Et vous autorisez les grands écarts parce qu'on parle de Zero Dark Thirty, où vous incarnez un terroriste torturé par la CIA.
Et il ne faut pas semblant dans le film. Hein. vous avez été doublé pour faire ça, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est terrible. Vous êtes pendu par les pieds, vous êtes complètement bastonné.
Alors, il y avait, c'était vraiment très très bien fait au niveau des cascades. En fait, il y a vraiment un encadrement, une équipe de cascades dans laquelle c'est marrant parce que je crois que vraiment les gens ont beaucoup plus souffert en voyant les scènes que moi en les tournant.
Terrible. Quoi.
Ensuite, il y avait un cascadeur pour certains passages. Et puis il y avait un type, je me souviens, sur le tournage qui était habillé comme moi, et je me demandais toujours pourquoi est-ce qu'il était là. Il était prêt à bondir sur le plateau. Et un jour, je lui ai posé la question, il m'a dit « I'm your ass double ».
Doublure cul.
En fait, ouais, le type
doublure
était...
Doublure postérieure, on est sur France Inter, messieurs.
Le type était venu de Londres. Prêt à dégainer son postérieur, ouais. En l'occurrence.
Quel beau métier.
Et vous y avez vu une ressemblance ou
No comment.
Alors justement, ce rôle...
Vous avez fait un selfie.
Justement, puisque ce rôle, Daniel s'y arrête un instant, ce rôle a créé un peu la polémique aux États-Unis parce que c'est comme si tout d'un coup les Américains découvraient qu'il y avait eu de la torture.
Oui, en tout cas, Catherine Bigelow, la réalisatrice, a été très attaquée à la sortie du film des deux côtés, en fait, du côté démocrate et républicain. C'est un pays sur lequel le patriotisme est vraiment une espèce de chose inattaquable, l'Amérique. Et pour beaucoup d'Américains, elle était anti-patriote en montrant ces choses-là. Et pour d'autres, elle faisait l'apologie de la torture. Donc finalement, je trouve que c'est le signe de quelqu'un de libre et d'engagé dans quelque chose de vrai, de tout d'un coup se retrouver dans ce malentendu, quoi, attaqué des deux côtés.
Et pas de doublure fesse pour les garçons et Guillaume Attal, parce que ça, c'est aussi un des 8 films de l'année 2013. Là aussi, Guillaume Gallienne s'est bien amusé avec vous. C'est encore un rôle qui a rien à voir avec ce que vous avez pu jouer avec Catherine Bigelow.
Oui, ça c'est une, si vous voulez, c'est un, comment dire, c'est un, moi j'avais adoré.
Vous inquiétez, on vous jugera pas, vous pouvez parler.
Tu peux pleurer.
Non, mais il y avait pas besoin de doublure face parce que tout
était. Il faut dire le personnage que vous incarnez.
Ouais, je joue un type qui séduit Guillaume dans une boîte de nuit et qui ensuite va l'amener à Porte de Saint-Ouen, je crois, dans un appartement où va lui être proposé une partouze entre gars. Et moi, j'ai adoré le scénario de Guillaume et les garçons à table. Guillaume, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et pour moi, c'était vraiment faire une incursion dans un type de cinéma et un type de rôle qu'on me propose pas d'habitude. Mmh. Et c'était très joyeux, quoi.
Vous avez pas l'impression, justement, qu'on vous propose des rôles très, très différents, comme si la crainte qui aurait pu être celle de votre père, de vous dire que vous pourriez être enfermé que dans des rôles assez stéréotypés de par vos origines ou votre nom, fait que maintenant, il y a une sorte d'ouverture qui existe vraiment ?
Oui, après, c'est vrai que tout est toujours sur le moment. Mmh. On peut toujours, à un moment de sa vie, s'enfermer dans quelque chose, quel que soit le métier. Et il ne tient qu'à soi, finalement, de donner un peu d'imagination aux autres et d'accepter les choses qu'on a envie de faire pour des bonnes raisons. Moi, j'essaye de toujours aller vers des choses que j'ai jamais faites, quoi. Donc, j'aime découvrir.
Et ben pour découvrir, moi, je vous incite à découvrir Les Derniers Parisiens, qui sera en salle mercredi 22. Un film de Amé et Écoué. Et pour aller plus loin sur Pigalle, qui est filmé comme jamais. On accueille Jean-Manuel Gabert. Bonjour Jean-Manuel.
Bonjour Jean-Manuel.
Emmanuel, vous êtes hôtesse entre 2h et 6h du matin.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Paris Montmartre. Vous êtes aussi guide culturel officiel de l'Office de tourisme de Paris pour les visites de Montmartre et du quartier de Pigalle. Bref, vous êtes l'homme de la situation, Jean-Manuel. Bonjour.
Bonjour.
Vous vivez depuis combien de temps à Pigalle ?
Ah, je ne vis pas à Pigalle, mais...
Au revoir Jean-Emmanuel.
Stop à la posture, vous sortez. Allez, sortez.
Il ne faut pas faire perdre du temps des gens comme ça.
Quand Nagui est pas là, c'est le bordel. On a vu tout à l'heure.
Merci.
Pas de spécialiste.
Non, mais vous connaissez en tout cas très bien le quartier. Vous êtes une figure d'ailleurs importante du quartier Montmartre.
Avec Michou.
Bien sûr.
Il y en a pas mal. Est-ce que Pigalle...
Vous connaissez Pierre Carré, pardon.
Pierre Carré, bien sûr, les Noctambules. Bon, il est décédé maintenant, c'était une figure incontournable du Paris mythique.
Alors vous avez une vision globale de ce Pigalle avant, maintenant. C'est un peu cette vision-là dont il est question dans le film.
Ouais, c'est un film qui m'a tout de suite, pour être dans le vocabulaire, qui m'a serré. Quoi, hein, tout de suite, vraiment, c'est tellement à dimension humaine, tellement vrai, tellement filmé dedans, en plongée, en immersion. On est à la fois dans l'ultra contemporain et en même temps, au final, je l'ai revu une deuxième fois, et j'ai senti le filon qui venait de chez Marcel Carné quasiment. J'ai senti presque le réalisme poétique de cette passé, y compris le personnage du clochard, presque la figure du destin qui passe.
Quel fil rouge du film.
Fil rouge.
C'est un bon compliment, ça.
Et Reda, c'est pas un compliment. À un moment donné, j'ai vraiment senti quelque chose comme un passé qui vient de Gabin aussi, finalement. Mm-hmm. Mais le Gabin d'avant, hein, de la jeunesse, évidemment, le prolétaire subissant un destin qui le ramène à sa classe, qui ne peut pas en sortir. Le déterminisme social, l'échec, la perte.
Et quel Pigalle, que Jean-Emmanuel remplace Leïla, parce qu'il parle du film mieux, en fait.
Mais oui, c'est bien. Et quel Pigalle vous avez vu dans le film ?
Ah, le Pigalle contemporain, on est dedans, c'est des vrais personnages, d'ailleurs on les reconnaît, on sent que sur le terre-plein, on triche pas, il n'y a pas de figurant. Et ça, c'est tout à fait impressionnant, c'est quelque chose. Alors, entre les deux frères aussi, c'est impressionnant, il y a l'ascension sociale de l'aîné qui grimpe sur la butte, finalement, vers la lumière. Et
justement,
il
y a la butte, il y a Montmartre, il y a Pigalle, on n'est vraiment pas très très loin. Pigalle,
le ciel et la terre et l'enfer.
Voilà, c'est ça, la vie, la mort aussi, quelque part, symboliquement.
Héros et Thanatos.
Héros et Thanatos, on reprend le rang de la paix, la guerre, ok. Ouais. Pigalle a toujours été un quartier à part, on a l'impression, à Paris.
Dichotomie d'ordre de chaos.
À quoi ça tient ? On fait un petit retour dans le temps.
Aïe.
C'est ce quartier.
Historiquement, je dirais que ça tient, c'est un peu comme le Berlin d'aujourd'hui, ça tient à un mur, en fait. Hein. Il faut bien voir le terre-plein du boulevard de Clichy sur lequel se passent les trois quarts du film, qu'on appelait d'ailleurs le boulevard des Allongés. On y ramassait les corps le matin. Donc, mais au milieu de ce terre-plein, c'était un mur. Hein. C'était le mur fiscal de Paris, hein, le mur des fermiers généraux, avec les bureaux de douane. Et d'un côté, vous aviez la place Pigalle, qui est notre 9e arrondissement. De l'autre, la butte Montmartre, qui commençait de monter, qui était en banlieue, avant qu'Haussmann l'annexe. Donc, côté Montmartre, mm-hmm. les marchandises ne payaient pas de taxes, donc tous les cabarets s'installaient de l'autre côté.
C'est pour ça qu'il y a tous les cabarets.
De l'Élysée-Montmartre au Moulin Rouge, Trois Baudets, Boule Noire, Cigale, mm-hmm. vous regardez, tous les grands cabarets sont côté Montmartre. Et évidemment, une fois le mur abattu, les cabarets sont multipliés aussi de l'autre côté. Mais déjà, le pli était pris, c'est-à-dire que ces cabarets avaient amené à la fin du 19e la prostitution, les premiers proxénètes, évidemment, mm-hmm. commencent à infiltrer le boulevard, et ça devient vraiment un lieu déjà du banditisme, puis ensuite, après la guerre, du grand banditisme avec les Corses qui arrivent, bien sûr.
Alors Pigalle souffre toujours un peu aujourd'hui de cette mauvaise réputation, est-ce que...
Faut dire que à l'époque des années, faut dire jusqu'à 30, jusqu'à 50, 60, quand vous faites un ravalement du côté de Pigalle, faut d'abord extraire les balles dans les murs, quoi. Mmh. C'est avant de commencer un immeuble, quoi, dans bien des cas. Évidemment, ils avaient mis en coupe réglée, hein, c'était le quartier alors, des Corses, mais ils ont aussi maîtrisé la petite délinquance à l'époque, donc les habitants n'étaient pas du tout importunés. Il fallait simplement à certaines heures éviter les règlements, parce que ce qui les a décimés, c'est les vendettas, déjà, entre mmh. eux, évidemment, les familles rivales du territoire. Et puis ensuite, ce qu'on a oublié aussi, après, c'est l'époque de la décolonisation, qui était dramatique parce qu'il faisait beaucoup dans l'import-export, hein. Et alors l'export des femmes et puis l'import opium, or, etc. Et donc évidemment pour eux ça a été le déclin, les dernières fusillades début 70, la fin de cette qui était devenu un mythe, hein, qui avait commencé avec Scarface, hein, le cinéma a beaucoup à voir, hein. Alors les voyous ont été très impressionnés en 32, ils étaient allés place Clichy voir le Scarface qui venait de sortir. Alors ils ont quitté les petits vestons, ils ont commencé à mettre les costards croisés, les borsalinos, ils ont acheté le costume à Noël, quoi. Des voyous américains
Et Pigalle est même devenu une source d'inspiration ici en France pour le cinéma, pour la littérature.
Complètement. Ça passe Henri Miller, Carco Macorlan, Genet, Le Breton, Simenon. Vous regardez, le Pigalle est une source perpétuelle pour la littérature et au cinéma aussi, bien sûr.
Alors c'est un quartier qui a ses propres codes. On le voit un peu dans le film. Est-ce qu'il a aussi son propre langage? Est-ce qu'on y parle différemment?
Sans arrêt, différemment. Alors au départ, bien sûr, il y a des argots très particuliers, aujourd'hui oubliés, hein, qui sont ceux d'avant la Première Guerre. Vous avez l'entre-deux-guerres. Bon, le Breton montre tout ça, comment le langage caché, secret, occulte de l'argot, qui est bien sûr pour se cacher du non-initié, eh bien évidemment, se métamorphose avec l'évolution. Ensuite, il y a les banlieues qui prennent le relais, hein, les voyous quittent Paris, comme le petit peuple aussi d'ailleurs. Donc en fait, c'est un nouveau Paris qui se met en place. Aujourd'hui, on a Pigalle à Chepoule, hein, c'est la ligne de vêtements. Hein, tout est dit. Une ligne de vêtements qui cartonne. Street and chic. Voilà, c'est tout le nouveau Pigalle. Dans le film, on voit d'ailleurs comment...
On voit la mutation il parle des bars à tabouret et maintenant, c'est des bars à soupe.
Ouais, c'est ça. Et quand il quitte
les bars à tabouret qui étaient des bordels, quoi. Oui. Enfin, des bars à filles.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs choses, hein. Il y avait les échassières. Alors, donc, elles sont sur le tabouret. Donc, vous avez
les échassières.
Voilà. Il y en avait encore 80 au début, dans les années 2005, je crois. On doit être à 2-3 aujourd'hui, quoi. Et donc l'affaire, la métamorphose, oui, est complète. Alors, il y avait ces filles qui évidemment sont là pour faire boire le champagne.
Enfin, c'est les entraîneuses.
Travaillent aux bouchons.
Travaillent aux bouchons. Voilà.
Mais c'est vrai que du coup, pour faire ce film, vous parliez du terre-plein, par exemple. Ouais. C'est vrai que on a vraiment essayé de tourner sans déranger la bête, quoi. C'est-à-dire de vraiment. C'est un lieu électrique. C'est un lieu sur lequel il y a des vies qui se jouent et du business qui se fait. Et Ekwe et Amé ont une vraie connaissance du terrain et une connaissance des gens qui nous a permis de tourner au milieu d'eux sans, comme c'est beaucoup le cas au cinéma, venir et installer un périmètre de sécurité qui est un peu une manière presque un peu coloniale, en fait, de considérer un tournage, quoi. C'est d'arriver et de poser son histoire comme si on était sur une page blanche. Là, au contraire, on a essayé vraiment de rentrer dans les plis de ce quartier et d'être avec les gens qui y vivent, quoi.
Et alors, quel est le nouveau profil, on va dire, des habitants de Pigalle? On voit dans le film que ça évolue, il y a encore une forme de mixité.
Oui, mais... nettement quand même. Hein. Et il y a le côté, il reste parfum, le côté glauque, les sex shops qui sont en fait les années 70, avec la fin de l'ancien milieu et le nouveau Pigalle qui maintenant qui garde encore des couleurs, on va dire, mais... La métamorphose, elle est en marche, quoi. C'est d'une manière évidente. Vous avez en ce moment une super opération immobilière près du Moulin Rouge qui va s'appeler la Cité Lautrec. tout est dit, super appartement de luxe, pavillon intérieur, enfin on voit sur leur site c'est très bien fait, vous avez ils vous vendent le mythe de Paris, en même temps le mythe ancien mais rassurant quoi, l'école, le cinéma à côté.
Vous trouvez ça bien ou vous trouvez ça un peu triste? Vous trouvez que Pigalle perd de son âme avec ça?
Oh bah, indéniablement, Paris, globalement, la métamorphose, elle est complète, quoi. Alors, les villes sont Baudelaire, hein, les villes changent plus vite que, etc., que la vie d'un homme. Bon, il faut s'attendre à cette mutation permanente. La sociologie nouvelle de Paris, bon, on en a superbement parlé avec humour tout à l'heure, mais c'est ça, c'est l'évolution inévitable, elle est bien montrée dans le film. Tout ce qu'on s'attend à trouver à Pigalle, en fait, n'y est pas vraiment.
N'y est pas vraiment.
Et c'est un beau contre-pied, je trouve, pour justement atteindre Pigalle.
Quels sont les derniers Parisiens, selon vous ? Ce sera ma dernière question.
Les derniers Parisiens, c'est ceux qui rêvent Paris en trichant pas et en n'essayant pas de le vendre.
Merci Jean-Manuel Gabert, merci à vous pour cet éclairage. Je précise que vous écrivez aussi. Vous n'êtes pas simplement que rédacteur en chef ou guide. Vous avez publié aux éditions de la Belle Gabrielle plusieurs livres, et dont l'un consacré à une des figures importantes de Montmartre. On est un tout petit peu plus haut, on va dire comme ça. C'est Dalida, Le Profil perdu. Merci à vous Jean-Manuel Gabert.
Et un sur Fantomas, formidable.
Un sur Fantomas, absolument. Ah oui. Et un sur Dorgelès, comme ça on est complet. Merci beaucoup. Merci. On voit bien Daniel Morin que Pigalle...
Vous voulez que je vous parle de Châteauroux? J'ai jamais été.
Pas tout de suite. On voit bien que,
oui,
que Daniel, vous êtes en forme déjà. Ça, déjà. C'est la bonne nouvelle. Et que Pigalle a été et restera un quartier à part de la capitale. Et il en faut en même temps des quartiers comme ça. C'est ce qui fait, en quelque sorte, bien l'identité de Paris.
Nom de Dieu ! Ah, oh, c'est pas possible. Ce que vous venez de dire est brillant, mademoiselle Lala. Oui. Vous encore hier, cette petite chose dont les seules lettres de noblesse étaient votre sac au titre de Miss Bibliothèque Angoulême 2002. Ce matin, vous avez la fulgurance des pharaons. Ah, ça change de l'eau tiède que nous sort le sultan du Caire, même si j'ai l'impression que ce matin, vous êtes aussi atteinte du syndrome de la tiédacitude. Car non, Paris n'a pas besoin de ces quartiers interlopes où le vice patrouille à la recherche de quelques résidus de vertu à polluer. Non, mademoiselle Lala. Je sais qu'en vous sommeille une noctambule perverse assoiffée de frissons indignes et humiliants. Je sais que vous voudriez qu'ici même, à ce micro du service public, je fasse l'apologie de la culbute sordide et sans hygiène. Mais c'est mal me connaître. Je suis pour une pureté retrouvée, pour un retour à la morale, à des trottoirs lavés de cette bête immonde qui est le stupre, qui de sa bave dégueulasse et contagieuse souille nos pavés et les vierges qui les foulent. Vous voyez, mademoiselle Lala, vos souhaits aussi pervers que dégueulasses n'auront pas eu raison du destin purifié de Paris. Désolé, mais en ce lundi 13 février, vous avez dit
n'importe quoi.
Voilà. Merci Daniel Morin, je ne sais pas pourquoi je dis merci. On va se nettoyer un peu de ces dernières insanités là pour la souillon des sables. C'était pas mal, c'était plutôt bien vu, j'avoue, j'apprécie finalement, tu vois.
Tu vois, on va
nettoyer tout ça avec un peu de musique, Stevie Wonder, Master Blaster, et on continue de parler après des derniers Parisiens avec Reda Kateb, notre invité jusqu'à 12h30 sur France Inter. We'll be right back. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France Inter, c'est la bande originale avec Tom Villa, Albert Albou, Frédéric Siris, Daniel Mora et en dernier Richard Lornac. Ne vous inquiétez pas, Nagui n'est pas là, c'est toujours moi, Leïla Kadour Boudadi. Notre invité c'est Reda Kateb. Il a toujours pas pris la fuite. Merci Reda.
Très bonne invité. Il est resté.
Pas trop déçu, hein, Reda, que ce soit pas Nagui.
Non, pas du tout. Là, vous faites ça vraiment merveilleusement.
Vous êtes gentil. On pense à toi, Nagui, en vacances. On t'embrasse. Toujours
non.
Pas, là.
Si, si, là, il est au restaurant.
C'est pas, attendez, deux secondes. Non, non, on va replacer le truc. Le gars, il part en vacances. Faudra qu'on lui dise merci.
Non. On peut lui faire un bisou.
On peut l'embrasser. Je lui sers la main.
Tu lui sers la main.
Je lui sers la main.
Je t'ai connu plus chaleureux avec lui, tiens. Les derniers Parisiens.
Il négocie des trucs. Je sais pas.
Les derniers Parisiens. C'est le premier long métrage de Amé et Coué. Une fresque moderne en plein cœur de Pigalle. Tarif jour, tarif nuit, comme on disait. Les bars à tabouret, les sex shops, les boîtes de nuit, les arnaques aux touristes aussi. Et puis, une belle l'histoire entre deux frères. On est bien loin de la mythologie d'Amélie Poulain, de Jeunet. Et vous, Reda Kateb, vous y interprétez Nas, vous redécouvrez aussi le quartier, en quelque sorte, vous sortez de prison, et vous avez bien l'intention de vous refaire, d'exister, de trouver votre place, tout simplement. Et il y a une bande originale dans ce film qui est assez incroyable. Je rappelle que les réalisateurs Amé et Ekoué, ce sont deux des membres fondateurs de La Rumeur. C'est ça, La Rumeur.
Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera. Il s'agira de sang sur les murs, au crépuscule d'une bavure. Je murmurerai la
chanson, chanson Guillerette. C'est un peu leur signature.
Non, on peut pas dire ça à Reda Kateb. Je pense que c'est un grand fan de La Rumeur.
Ça n'empêche pas.
Oui, bah, vous leur direz à eux et puis vous nous expliquerez.
Actuellement, on ne peut rien dire non plus.
Et la musique originale du film, on la doit à Démon et Pepper Highland, ça donne un peu ça. Ça, c'est ambiance boîte de nuit, c'est les soirées que vous organisez, que votre personnage organise.
Ouais, ça c'est la musique de Nas, justement. Nas, mon personnage, écoute pas La Rumeur, en fait. La Rumeur, c'est plus nous qui l'écoutons. Et ouais, ça c'est le son qui passe lors d'une soirée que Nas organise.
Il y a la hyène aussi qui est présente dans la bande originale du film.
Ouais, mets-toi bien, mec. Écoute bien ça.
Ça aussi, Nas, il peut écouter, ouais.
Ça, il aime bien, Nas, c'est quand il sort avec ses copains.
Le nom Nas, est-ce que c'est un hommage au rappeur?
En tout cas, Amé et Coué ont une admiration sans borne pour Nas, pour le rappeur. Ouais.
Justement, puisqu'on parle de rappeur, il y a Willy Barge aussi, qui interprète Lucrèce dans le film, qui est un rappeur.
Ouais.
Il y a Bakary Keïta, Constantine Atia, Mélanie Laurent aussi, qui joue votre agent de probation.
Qui n'est pas une rappeuse, ouais.
Qui n'est pas une rappeuse, non, aux dernières nouvelles, on sait jamais, hein, elle a pas mal de cordes à son arc, Mélanie Laurent. L'excellent Slimane Dadi, je le disais, je la répète, et bien sûr, vous, Reda Kateb, dans ce film. Vous avez montré le film déjà un petit peu?
Oui, on l'a présenté dans quelques festivals en France et à l'étranger. Et, les premières projections qu'on a faites nous ont fait nous confronter à des publics vraiment différents. On est allé à Bordeaux, Sarlat et Tokyo.
Là, il y a un gap, hein.
Ouais, c'est ce qu'on
tout
appelle,
le sud-ouest, quoi.
Voilà. Il y a que Périgueux, bon, qu'on n'a pas fait. Mais du coup, c'était vraiment. Enfin, quand on fait un film, on se demande en fait comment les gens vont s'en emparer, et ce que ça va raconter aux gens. Et c'était vraiment une bonne surprise de voir à quel point plein de gens et plein de générations finalement étaient touchés par ce film, jusqu'à Tokyo où là, c'était carrément inespéré. C'est-à-dire qu'il y a des cinéphiles japonais, notamment un qui venait de Kyoto pour ce festival, qui s'est mis à rendre hommage au film en parlant justement des films à l'ancienne dans lesquels il y avait Jean Gabin, Lino Ventura. Et ça nous a fait vraiment plaisir, parce que c'est des choses qui sont un peu en creux dans le geste du film, qui sont pas affichées, on en parle pas. Et quand c'est reçu comme ça, ça fait vraiment du bien. Ouais.
Alors moi, j'adore la bande originale, j'adore le casting, j'adore le film d'Amé et Coué en salle le 22 février dans toutes les bonnes salles.
Mercredi en 8,
c'est très bien dit. Et bien justement, après l'élégance et le charme de Reda Kateb, il est temps de revenir à la triste réalité. C'est à toi, mon Daniel. Daniel Mora.
Oui. En France, Il existe un endroit où tout est merveilleux.
Le feuilleton.
Un endroit à part, perdu dans le 16e arrondissement de Paris. Une maison ronde pleine de vie, de joie, mais aussi de douleur, de jalousie, de bassesse et de grandeur. Bref, il s'y passe toujours quelque chose de fort. Quand pour toi une journée est super, sache que c'est une journée ordinaire.
À France Inter.
Une saga quotidienne avec Nagui le Priapic, Laetitia Gaillet, la journaliste folle, Fabrice Drouel, l'homme à la voix de satire, André Manoukian, l'animateur moitié homme, moitié bouc, mais aussi Laurence, la directrice qu'on dirait qu'elle est sous acide, Mathieu, le grand patron le plus beau du monde, et bien sûr tous les people qui hantent les couloirs de la radio. Bienvenue dans une journée ordinaire à France Inter. C'est parti. Aujourd'hui, tout est calme à France Inter. Enfin, en apparence. Aujourd'hui, en l'honneur de notre invité, de son actualité liée à Pigalle, avec la Saint-Valentin qui se profile le lendemain, toute la grille de France Inter est consacrée à l'amour. Laurence, la directrice, fait son petit topo. Bon les enfants, aujourd'hui on célèbre Pigalle et la Saint-Valentin. Je veux une thématique très très haute. Vous avez compris, je veux du sulfureux, voire du dégueu. Pour commencer et vous mettre dans l'ambiance, je veux que tout le monde passe la journée en slip. Comment Richard? Ah ben j'y peux rien si tu mets pas de slip mon pauvre vieux, hein. À poil, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, c'est pianiste, je vous jure. En tout cas, le thème de cette journée met en joie un homme particulièrement heureux de pouvoir se promener en sous-vêtements.
Plus près de toi, mon Dieu.
Mais qu'est-ce que c'est que ce slip, Père Albert?
C'est mon slip en toile de bure.
C'est confortable au moins?
Pas le moins du monde, ça gratte, c'est une horreur. J'ai l'impression d'avoir les baloches dans du papier de verre.
Oh, mon pauvre.
Mais non, ça pique, ça brûle, ça irrite. J'adore cette sensation douleur.
Une spéciale amour, ça ne pouvait pas échapper à la bande originale. Bonjour et bienvenue dans la bande originale avec la coquine Leïla Kadour Boudadi, le sensuel maréchal Ganache, l'hyper viril Daniel Morin. Aujourd'hui, notre invité est Michel Fourniret. Michel qui vient pour son livre, Laisse-toi faire, il y a du bonheur dans les fougères. Pour Michel Fourniret, faites du bruit. Oh, quelle bonne idée. Dans l'affaire sensible de Fabrice Drouel, mais oui, Fabrice revient sur une grande affaire amoureuse. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, nous allons nous pencher sur une affaire particulièrement sensible d'amour contrarié. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier Morandini l'incompris. L'histoire, comme beaucoup d'histoires d'amour, commence dans un vestiaire. Là, des jeunes sont sous la douche, en train de batifoler. Jean-Marc, producteur télé, connu pour son histoire d'amour volcanique avec un animateur égyptien, Jean-Marc entre dans le vestiaire et tombe par hasard sur une caméra. Il la saisit, poursuit son chemin dans le vestiaire. Là, il arrive, totalement par hasard encore une fois, dans les douches. C'est le coup de foot pour Jean-Marc et les 250 garçons qui se frottent le corps en chantant les lacs du Connemara. Jean-Marc décide d'immortaliser l'instant et ça tombe bien, il a une caméra. Des esprits mal intentionnés diront plus tard que c'était juste de la perversion. Enfin, pour clore cette spéciale amour, André Manoukian sort le grand jeu. Dédé l'Arménien, qui a des poils même sur les dents, a invité toutes ses ex sur le plateau Hot, Hot, Hot. Il joue nu, ainsi devant son piano. Ses ex l'écoutent, subjugués par la sensualité de son toucher de clavier et enivrés par le cocktail que Dédé leur a servi. Un délicieux cocktail Malibu, Ricard GHB. La soirée passe du hot au hard. Dans quelques minutes, tout le monde est ravi, même Chloé, sa première fiancée. Une chèvre à poils longs, âgée aujourd'hui de 12 ans. Mon Dieu, quelle radio magique et romantique à la fois. Bref, aujourd'hui encore, à Radio France, un travail remarquable accompli par une équipe d'animateurs époustouflants. D'aucuns diraient, quelle journée fantastique, et pourtant, tout ça, c'est juste une journée très très ordinaire à France Inter. À demain.
Daniel Morin, et Albert Albou aussi. Merci, merci à tous les deux. On est toujours sur France Inter pour parler des derniers Parisiens avec Reda Kateb, un film de Amé et Ekoué. Et il y a pas mal de choses qui se préparent pour vous, Reda Kateb. Très bientôt, c'est le 26 avril, vous allez nous montrer Django, un film d'Étienne Comard, et vous incarnez le fameux guitariste de jazz.
Oui, oui, on part présenter le film demain au Festival de Berlin, dont on fait l'ouverture en compétition officielle. Donc, on le présente jeudi pour la première fois. Et en France, il sortira en effet le 26 avril.
Alors, qu'est-ce que ça fait tout d'un coup de se mettre dans la peau de Django Reinhardt ?
C'était un projet incroyable. Moi, c'est la première fois que j'ai passé une année à préparer un rôle. Ça fait très peur au début.
C'est quoi la préparation pour un rôle comme ça ?
La guitare, non ?
Bien vu. Je me suis accroché à ma guitare pendant un an.
Non, ça, c'est Claudio Capéo, c'est là.
Je suis très mélomane, voilà, j'aime beaucoup la musique. Django, je le connaissais comme la plupart des gens. C'est-à-dire, j'avais écouté quelques morceaux, j'avais vu 2-3 photos, mais... je connaissais pas grand chose de sa vie et donc c'était finalement l'occasion de découvrir énormément de choses et du point de vue de la musique, de la pratique de la guitare que j'ai travaillé pendant un an et la découverte de cette culture Tzigane, Manouche et cette période de la guerre et des artistes en France durant l'occupation qui résonne d'ailleurs étrangement avec aujourd'hui sur pas mal de choses. C'était un voyage extraordinaire.
Et vous avez une doublure phalange ?
Comment vous avez fait ? J'ai une doublure qui fait quelques phalanges, en effet. Est-ce
qu'il faut dire que Django, il avait quelques bouts de doigts en moins.
Alors non, justement, moi aussi, je croyais comme tout le monde qu'il lui manquait deux doigts. Et en réalité,
il
les avait tous.
Il en avait deux en plus.
C'est pour ça qu'il était si bien.
Il les avait, mais ils étaient brûlés, en fait.
Voilà.
Sa main avait brûlé lors d'un incendie quand il avait 18 ans. Et deux, finalement, cet handicap dû à cette brûlure, il a inventé une musique. Mm-hmm. Il a inventé le jazz manouche.
Du coup, vous avez appris à trois doigts ?
Ouais, j'ai eu un prof vraiment exceptionnel, un super bon pédagogue qui a tout revu pour m'enseigner cette manière de jouer de la guitare.
C'était Philippe Croizon.
Non, tu le laisses Philippe Croizon tranquille.
Je ne sais pas qui est cette personne.
C'est un homme très courageux qui a traversé la Manche à la nage.
En ondulant.
Et qui a fait le Dakar aussi, il n'a pas de bras, pas de jambes.
Ouais, voilà.
Ah, d'accord.
Alors, Yas Biopic, Django d'Étienne Comard avec Cécile de France, notamment d'ailleurs, à vos côtés. Et il y a encore du lourd, c'est un film réalisé par Wim Wenders. Submergence.
Oui, alors le prochain. Là, j'y tiens un second rôle. Donc, ouais. Voilà, j'ai pas traversé tout le tournage, mais on avait tourné avec Wim Wenders Les Beaux Jours d'Arend Kroes, qui était sorti en novembre, il me semble. Et puis, lorsqu'il m'a proposé de retourner à nouveau avec lui, pareil, j'ai dit, j'ai même pas lu le scénario. J'ai dit, c'est où tu veux, quand tu veux. Et j'y joue un sympathique général de Boko Haram.
Encore un rôle bien.
Sur une musique déformante.
Encore un chic type.
Exactement,
il y a d'autres choses en prévision, Reda Kateb.
Je vais retourner un film avec David Olofen, avec qui on avait fait Loin des Hommes, avec Viggo Mortensen, qui était adapté de Camus. Et dans celui-ci, je vais jouer un flic des stupes. Donc voilà, ça c'est une chose en préparation pour l'année prochaine.
Bon, vous êtes toujours sur France Inter dans la bande originale avec Reda Kateb. De l'esprit, un soupçon d'espièglerie. Qui d'autre qu'Albert Algou pouvait incarner ce matin la séquence culte de l'émission. C'est le brouillon de culture pour Reda Kateb. C'est une séquence culte, je suis désolée.
En toute simplicité.
C'est ta modestie.
Mais oui. Parce que si je ne le fais pas tout seul, personne ne
le fait.
Donc à présent, Reda Kateb, c'est notre brouillon de culture, histoire de tenter d'apprendre à mieux vous connaître, comme dit d'habitude à cette place Leïla. Un premier extrait sonore.
Non, je l'ai vu dans Un Prophète et je l'ai aussi vu dans Zero Dark Thirty. C'est un acteur magnifique, un vrai gentilhomme, un gentleman. Et dans son rôle dans le film, il fallait quelqu'un qui soit très... qui avait de la grâce, qui ait de l'élégance, qui donne cet aspect de gentleman, et c'est très rare chez certains acteurs, et donc j'étais vraiment fasciné de travailler avec lui.
C'est Ryan Gosling, je prononce bien, qui parle de vous lors de la sortie de Lost River. On voulait savoir si vous aviez son numéro, Leïla,
Ouais, j'ai fait une petite demande pressante.
Bien sûr, mais je vous le donnerai. Je donne toujours le numéro de toutes les personnes que je connais.
Si vous avez le numéro d'Eva Mendes, du coup, moi, je veux bien récupérer.
Vous faites une liste et puis je vous envoie un mail.
Super.
Ce soir.
Si vous avez le numéro de La Rumeur, j'aimerais bien leur toucher.
Moi aussi, je veux bien La Rumeur. Ouais.
Moi, j'ai le numéro des Forbans, si vous voulez. Et comment ça s'est passé avec lui, tout simplement ?
Tout simplement. Ouais, tout simplement. Il m'a d'ailleurs proposé le rôle tout simplement parce que j'ai passé aucun essai en fait. Il m'avait vu donc dans les deux films qu'il citait là dans l'extrait que vous mettiez et puis j'ai reçu le scénario et c'était une proposition ferme. Donc c'était voilà un début très simple et puis ensuite ensuite un tournage, je dirais artisanal. C'est pas du tout l'image. On parle souvent d'Hollywood dès qu'on parle des États-Unis, mais là on est vraiment sur un tournage de film indépendant dans lequel on a pu même sortir des marques des syndicats. Faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des règles syndicales très très précises et très très rigides sur les horaires, sur toutes ces choses-là. Et je me souviens d'une soirée où on avait volé le costume de mon personnage et où je me suis maquillé à l'hôtel pour que ensuite on passe la nuit à essayer de tourner, enfin à tourner des trucs dans la ville de Détroit. Et du coup, c'était très beau de faire des sorties de route. Moi, j'aime beaucoup ça.
Et là, il vous a mouillé la compresse de manière incroyable dans le commentaire.
C'est un peu dur de venir pour se faire maltraiter à ce point-là et entendre des choses aussi terribles.
Vous évoquez tout de suite là, l'industrie du cinéma aux États-Unis. Pour revenir au Dernier Parisien, c'est un film que Amé et Coué ont produit d'une certaine façon. Comme ils font pour leur musique, pour le rap. C'est un système un peu particulier quand même, qui est assez rare dans le cinéma.
C'était cohérent avec le film qu'ils avaient envie de faire, avec sa fabrication, avec aussi la question des horaires, ces choses-là. Il arrivait certains jours qu'on termine plus tôt, d'autres qu'on termine plus tard. Enfin voilà, ils étaient aux manettes de cette chose-là et ça pouvait pas se passer autrement en fait. Je les vois mal face à un producteur qui leur dit non mais là ça y est, c'est l'heure, on remballe, ou alors au contraire, allez, on continue. Ils ont vraiment cette indépendance et cette liberté, ils se donnent les moyens de ça, quoi. Donc c'est eux qui sont allés chercher le financement et ils sont très organisés, ces garçons.
Ouais, je crois aussi.
Un autre extrait sonore.
Attention, je vais lancer la formule magique. On va mettre toutes nos mains en position magique vers Alioshki. Alioshki. Alioshka. Alioshka.
C'est un extrait de Pitchoun, le premier court-métrage que vous avez réalisé. Et du court-métrage, en général, quand on parle du court-métrage, on dit à quand un long-métrage ?
Oui, je ne saurais vous répondre en fait, mais j'avais très très envie de raconter cette histoire-là. Et j'attends d'avoir une histoire aussi nécessaire à raconter pour envisager de faire un film. J'ai un peu de mal avec l'idée de vouloir faire un film et de chercher une histoire pour le faire, quoi. J'ai besoin que ce soit vraiment réaliser un film. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, c'est des années. Il faut vraiment avoir un désir très très fort. Pour le moment, je suis assez comblé par ce que je fais comme acteur, quoi.
Et comme réalisateur, vous êtes comment ? Pardon, Albert, je vous ai interrompu. Vous avez l'air tellement doux, tellement calme. Ça donne quoi, Reda Kateb, derrière la caméra, en train de diriger toute son équipe ?
Là, sur ce court-métrage, c'était vraiment que du plaisir. J'avais un peu peur la veille parce que je savais qu'on allait me poser 1000 questions et que sur beaucoup, je n'aurais pas forcément de réponse. Et en même temps, j'ai vu travailler pas mal de réalisateurs ces dernières années et j'avais vraiment envie que ce tournage ce soit une fête en fait, que ce soit d'éviter aux gens avec qui je travaillais les choses que je n'ai pas aimées chez certains réalisateurs et au contraire de permettre finalement à chacun de s'approprier le film, quoi.
Albert.
Réaliser un film, ça peut être aussi l'écrire. L'écriture, c'est une histoire de famille, hein, il faut le dire, puisque vous avez un grand-oncle, Kateb Yassine, qui est un homme de théâtre, un romancier, un poète aussi, et qui est un très très grand écrivain algérien, hein, il faut le rappeler, aux côtés de Mouloud Feraoun, Mouloud Mamri, Mohamed Dib. Il est de cette génération de grands grands auteurs qui sont fondateurs de la littérature de langue française en Algérie, même si après, il a voulu revivifier le tamazir, la langue berbère. Et c'était un grand poète, et comme c'était un grand poète, je vais vous offrir un recueil de poèmes, non pas de votre grand-oncle quand même, je ne vous ferai pas cette insulte, c'est les œuvres complètes de Richard Brautigan, qui est un poète de la Beat Generation. C'est tout ce que j'ai à déclarer. C'est publié au Castor Astral. C'est un grand, grand poète de cette époque qui est mort dans les années 90. Et comme c'est la Saint-Valentin en ce moment, il y a un poème très, très
beau. Ça sera demain, mais c'est bien anticipé.
C'est demain. Nous étions les infos de 11h. C'est le titre du poème. Nous étions les infos de 11h, car tandis que le reste du monde allait au diable, nous faisions l'amour. C'est très beau, ça. Donc, Castor Astral, c'est un énorme bouquin.
C'est énorme.
Richard Brautigan, mais c'est une très, très belle œuvre. Je vous transmets. Et très rapidement.
60€, c'est un super
cadeau. Non. C'est
quelques
euros.
Albert.
Très rapidement, ouais. Alors, une BD de très, très bonne facture, qu'Ella Guyot au scénar et Maurice, M-O-R-I-C-E, au dessin, en grand angle. Facteur pour femmes. C'est pendant la guerre de 14-18. Ah oui. C'est sur une île bretonne. Tous les hommes sont partis à la guerre. Il reste que les vieux, les femmes et un mec qui, lui, a été exempté parce qu'il a un pied beau. Il va devenir l'amant de beaucoup de femmes, mais ça va créer des situations incroyables, des quiproquos, un imbroglio. C'est une histoire à la fois tragique et pleine d'humanité. Et c'est absolument splendide. C'est grand angle, facteur pour femmes. C'est une BD qui remporte un assez grand succès en ce moment et je la recommande très, très vivement.
Lu, elle est très bien.
Très vivement.
Je crois que ça va devenir un film d'ailleurs. Parce que j'ai lu un scénario sur ce sujet. Oui.
Histoire magnifique.
On vous a proposé un rôle
Non.
Un rôle de Bigouden.
Le pied beau. Non, je crois que j'allais dire le pied beau.
Ah, en Bigouden, vous seriez pas mal. Avec une doublure fesse.
Merci beaucoup, Albert. Vous avez été parfait, absolument parfait pour ce bouillon de culture.
Pas mal, hein.
Ah ouais, je vous trouve. Je me méfie. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Enfin bon, je suis toute seule. Il est grand temps d'entendre les excuses de Daniel Morin.
Oui,
Daniel.
Désolé pour les futurs spectateurs des derniers Parisiens qui, après avoir découvert que le personnage de Reda Kateb finissait son film en travelot avec le maréchal Ganache à Bangkok.
Ah,
pas de panique, les amis, ce sera coupé au montage, évidemment. Désolé pour les fans de Princesse Lala qui imaginaient l'emmener boire un thé dans un palace parisien et qui ont découvert, en fait, une jeune fille qui préférait une bonne rôteuse dans une cabine du sexodrome à Pigalle. Désolé pour les habitants de Périgueux qui se sentit méprisé par le snobino bobo parisien Reda Kateb. Ah, pour Reda, c'est clair, hein, c'est deux voyages chez les ploucs maximum. Après, c'est Tokyo.
Merci beaucoup. Moi, j'ai été ravie de présenter cette émission, la bande originale.
Oui.
Ça a été les garçons.
Je suis content d'être là.
Ouais, Reda aussi, pas de regrets.
Toujours pas.
Bon, alors, Les Derniers Parisiens, on le rappelle, en salle, mercredi 22, un très très beau film de Amé et Ekoué. Je vous invite vraiment chaleureusement à aller le voir. Déjà pour le plaisir de voir Reda Kateb sur les écrans et Slimane Dazi. Demain, la bande originale, ce sera à toi, Tom Villa, de la présenter. On recevra
Mathieu Madénian. Pour son livre Allez tous vous faire enculer.
Ok, très bien, ça s'est dit. Voilà, on a donné le ton. Nagui, on t'embrasse toujours. Nagui, je le rappelle, a les doigts de pied en éventail, en pense
dans ses
à
chaussures
toi.
De ski, bien sûr.
T'inquiète pas, on tient la boutique.
France Inter sur le casque, ouais.
On tient la boutique, patron. Et tout de suite, c'est Philippe Bertrand qui prend le relais avec ses fameux carnets de campagne. Merci à tous.
Merci à vous.
Merci, mesdames.